Alors, tout d'abord, je vous salue. C'est toujours une grande joie d'être ici à l'église de Mâcon. Le texte que nous allons lire ce matin est en rapport avec le sujet de notre culte intergénérationnel aujourd'hui. Alors, juste pour remettre dans le contexte du passage de cette histoire de la prison de Paul et Silas, donc cette histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc était le collaborateur de l'apôtre Paul. Et Luc s'adresse à un certain Théophile pour lui retracer un peu tous les événements qui se sont passés dans le début de l'Église primitive, tous les événements qui se sont déroulés après l'ascension du Christ. Et d'une certaine manière, on peut comprendre que le livre des Actes des Apôtres a été écrit en particulier pour ce Théophile, mais aussi pour ceux qui sont en recherche par rapport à la foi, à tous les disciples de Christ, pour savoir ce qui s'est un peu passé, pour savoir ce qui s'est passé peu après les événements qui sont passés en Judée. Donc c'est un témoignage précieux pour l'Église, pour tous les chrétiens, de ce qui s'est passé après l'ascension du Christ. Alors bien sûr, il existe plusieurs façons de comprendre ce message. Sur cette histoire de Paul et Silas dans la prison. Et je vous invite à lire ensemble, à relire ensemble les Écritures. Donc dans Actes chapitre 16, versets 16 à 40. Alors je vais lire dans ma Bible, qui est une version Louis II maintien. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pitique et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au-devant de tous, de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: Ces gens sont des esclaves du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit: Par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Et il sortit à ce moment même. Voyant disparaître leurs espoirs de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique, devant les chefs. Ils les présentèrent aux magistrats en disant: Ces gens jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs qui prônent des coutumes qui ne nous est permis ni d'accueillir ni de pratiquer à nous qui sommes citoyens romains. La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous borne de garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria: Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il le mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui. À ce moment même, en pleine nuit, il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les lecteurs dire au geôlier: Relâche ces gens. Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les magistrats font dire de vous relâchez. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul leur répondit, « Après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous chasseraient en secret ? Pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. » Les lecteurs apportèrent ces paroles aux magistrats, qui prirent peur en apprenant qu'ils étaient citoyens romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie. Après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Amen. Donc, ce que je voulais vous présenter par rapport à ce texte, c'était la proposition de ce sermon, c'est la souveraineté de Dieu par Jésus-Christ dans cet épisode précis. Alors, on peut découper le texte en plusieurs parties. La première partie, c'est l'état de transcendance de la jeune fille au verset 16 et 17. La partie exorcisme, verset 18. L'accusation envers l'équipe apostolique, verset 19 au verset 21. Leur condamnation, du verset 22 au verset 24. Les prières, les louanges dans la prison, au verset 25. Le tremblement de terre, au verset 26 et 27. Le salut arrivé dans la maison du geôlier, du verset 28 au 34. Et le relâchement de Paul et de Silas, du verset 35 et 38. Alors, on va faire quelques explications par rapport à cette partie-là. Donc, au verset 16 et 17, on nous rapporte qu'il y avait une jeune fille, une esclave, ou une servante, selon les traductions, qui procurait à leur maître un profit important parce qu'elle faisait de la divination. Dans le grec, on parle d'esprit de divination, mais on parle plutôt d'esprit de python. Le python, c'était un symbole dans la Grèce antique, comme un symbole de l'oracle de Delphes. Et donc les prêtresses dans la religion polythéiste grecque, elles rentraient dans une certaine transe pour représenter Apollon. Et ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles disaient, elles prédisaient le futur. On associe aussi le terme de python, en termes de terminologie, parfois au ventriloquisme, parce qu'elle parlait de manière involontaire de la voix de Dieu. Et cette pratique de la divination était un fait courant dans l'Empire gréco-romain. Et donc, dans ce passage-là, on peut voir que lorsqu'ils sont sortis, Paul et Silas, il y a ce fait-là. Tout à coup, une jeune fille, elle sort, et elle commence à crier derrière eux. Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. J'aimerais juste donner un petit détail par rapport au grec, où on parle de la voie du salut, mais si on prend un peu ce qui est écrit, on parle de qui vous annonce, oitenes kategelousin, qui vous annonce, ou mine à vous, odon. Soterias, ça veut dire à vous la voie du salut, mais il n'y a pas d'article suivant la voie du salut, on parle d'une voie du salut. Juste pour un peu ordonner que parfois il y a des manifestations comme ça qui s'apparentent, mais on peut faire attention à ce petit détail-là. Si on continue dans le verset 18 sur l'exorcisme, alors Paul, excédé, chasse cet esprit mauvais de cette jeune fille. Alors, juste pour redonner une certaine définition de l'exorcisme, c'est une sorte d'acte d'accusation, de conjuration sous serment. Quand on parle d'exorcisme, en fait, il y a le mot orcos qui veut dire serment. Et en fait, c'est de faire serment au nom de Dieu. En latin, ça donnait exorcisare, qui veut dire chasser les démons. Alors dans le texte, on peut s'apercevoir que Paul n'a pas réagi de manière impulsive par rapport à ce qui s'est passé. Cette jeune fille l'a fait pendant plusieurs jours. Et c'est dans un état un peu excédé qu'il a chassé ce démon. Alors pour l'instant, je fais juste de l'explication texte un peu. Et après, on parlera sur le thème de la souveraineté de Dieu.
Au verset 19 et 21, on passe un épisode où on part sur l'accusation vers l'équipe apostolique. Cette accusation, elle ne se porte pas sur la perte du profit que des maîtres par rapport à la jeune fille. Mais devant les magistrats, les maîtres ont plutôt insisté sur ce sentiment antisémite qui existait à cette époque-là, qui était très fort dans le monde romain, parce que la Judée était connue comme une province problématique et rebelle. Comme vous le savez, en 70, lorsque Titus a détruit Jérusalem, c'est parce qu'il y avait des fortes tensions dans cette province romaine. Et donc, ces maîtres ont soulevé la foule et ont accusé Paul et Silas d'actes contraires aux lois romaines et ont soulevé comme motif d'accusation le trouble de l'ordre public, de la paix romaine. Parce que l'Évangile proclame un seul Dieu et la résurrection et le salut éternel en Jésus-Christ. Au verset 22 et 24, donc les apôtres ont été jugés dans un procès qui n'était pas équitable, parce qu'ils n'ont pas pu se défendre, et donc ils ont été punis, selon une certaine méthode romaine, qui était d'être roués de coups de bâton et de verges. Donc cette condamnation n'a pas été faite de manière équitable, il n'y a pas eu d'examination de l'affaire. Et si on se reporte à un autre verset, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 2, Paul parle d'avoir été outrageusement traité à Philippe, alors qu'en tant que citoyens romains, ils avaient une certaine protection juridique. Au verset 25, ils sont jetés dans la prison, et Paul et Silas louent et prient Dieu dans une situation un peu injuste, mais cette louange et cette paix, ces prières illustrent une certaine joie de la paix que nous avons en Jésus-Christ. Et cette foi nous donne une certaine force, une certaine constance au milieu de la souffrance. Donc on peut noter que dans cette prison-là, donc Paul et Silas, ils priaient, ils chantaient, mais souvenez-vous que Pierre, lorsqu'il a été jeté en prison, lui, il dormait. Donc c'est pas forcément, en fonction des circonstances, on peut agir de telle manière, l'important c'est de garder cette foi, cette présence de Dieu en nous, cette communion avec Jésus-Christ. Au verset 26 et 27, on parle du tremblement de terre. Et donc si on peut passer à la diapositive suivante. J'ai mis une carte sur les séismes dans la région, en Grèce. Donc vous voyez tous les points là. Donc tous les points représentent les séismes qui sont passés entre 1900 et 2023. La Grèce est une région plutôt sismique. Alors certains diront que est-ce que c'est un hasard ou pas un hasard, une coïncidence ou pas? Lorsqu'ils ont prié et chanté, il y a eu un tremblement de terre ou pas? Ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt une coïncidence hasardeuse, mais plutôt c'est plutôt la main de Dieu qui a utilisé des circonstances géographiques pour répondre à une certaine par rapport à un certain but. Donc ainsi Dieu intervient et fait trembler la terre, et les fondations de la prison sont ébranlées. Les prisonniers sont libres. On peut revenir à la diapo précédente. Et donc, le but n'est pas ironiquement de la délivrance physique de Paul et Silas, mais plutôt le salut du geôlier. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 38 et 34. En entendant les prières et les chants de Paul et Silas, certainement le geôlier a dû les entendre. Et donc se demander, mais quel est leur Dieu? Et donc touché par cet événement, ce tremblement de terre, le salut est venu à lui et à sa maison par la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Donc il vient, il demande, que faut-il faire pour être sauvé? La foi qui sauve, c'est de recevoir Christ, de croire en ses propos et de mener une vie semblable à lui. Et donc le geôlier se réjouit de ce que ce salut est entré dans toute sa maison. Au verset 35 et 38, ensuite, nous passons à l'épisode du relâchement de Paul et Silas, où Paul et Silas montrent clairement aux autorités que leur droit en tant que citoyen romain n'a pas été appliqué. Mais cependant, ils n'ont pas fait plus de remous que cela. Ils ont laissé passer certaines injustices. Alors voilà un peu pour la composition de ce texte-là, par rapport à chaque épisode. Mais si on y réfléchit bien du point de vue de la souveraineté de Dieu, dans la mission évangélique, si on reprend tous les événements, donc la manifestation de ce démon au travers de cette jeune fille, l'exorcisme, la condamnation de l'équipe apostolique, donc ce procès inéquitable qu'ils ont subi, cette mise en prison, ces chants et ces prières dans la prison, ce tremblement de terre, et ensuite le salut. D'un point de vue de la souveraineté des dieux, ce que j'aimerais dire, c'est que il y a parfois dans notre vie une succession d'événements qui nous dépassent. Pourquoi ce moment précis, lorsqu'Apolle et Silas y sortent, il y a cet événement, cette jeune fille qui les importune? Pourquoi, juste après, Paul, excédé, dit « Maintenant ça suffit, je te conjure, tu sors. » Et ce démon est parti. Pourquoi cette condamnation injuste devant toute la foule, devant les autorités publiques? Pourquoi cette condamnation et cette mise en prison? Est-ce que Dieu ne l'avait pas vu tout cela? Pourquoi tout à coup ce tremblement de terre? Et pourquoi, à la fin, le geôlier a pu entendre l'évangile et être sauvé? Et si on fait la synthèse de tous ces événements, de toutes ces étapes, peut-être que la volonté de Dieu, c'était que le salut vienne dans cette maison du geôlier. Mais que les apôtres Paul n'avaient pas cette vision-là lorsqu'ils étaient sortis pour aller prier. Et parfois, dans notre vie aussi, c'est ce qui nous arrive. Parfois, on ne comprend pas tous les événements qui viennent à nous. Nous subissons certaines circonstances professionnelles, familiales, spirituelles, à l'église, des situations qui peuvent être frustrantes, des situations dans lesquelles on n'est pas d'accord, on n'est pas en paix, ou parfois on a certaines épreuves douloureuses, certaines attaques, entre guillemets. Mais si on se pense, et si on réfléchit, si on médite la parole de Dieu, « Seigneur, pourquoi cela m'arrive ? » Ou « Qu'est-ce qui m'arrive encore ? Pourquoi j'ai autant de problèmes ?» Mais Dieu, dans sa prescience, dans son omniscience, savait qu'il y avait un besoin de salut dans cette maison du geôlier. Savait que le salut devait être apporté à cette famille. Et parfois, quand on ne voit pas tout cela, on se demande, si j'étais à la place de l'apôtre Paul et de Silas, comment aurais-je réagi? Et parfois, dans ces situations-là, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est pour ça que j'aimerais insister sur cette souveraineté de Dieu, de dire, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi tout à coup cette fille, elle nous a opportunité. Pourquoi tout à coup ces maîtres nous ont traînés en justice devant les autorités publiques. Pourquoi nous avons été condamnés de manière injuste. Et même dans la prison et dans la souffrance, dans l'injustice, on continue de louer Dieu et de chercher Dieu, d'être en communion avec lui. Et ce qui est important de noter, c'est que dans ces moments précis de souffrance et d'incompréhension, mais pourquoi je suis là, alors que quel est le sens à ce que je vis, à ce que je subis? La réponse, elle ne vient parfois que longtemps après. C'était que cette famille puisse être sauvée, que cette famille du geôlier puisse entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et voyez-vous, ce tremblement de terre, oui, ça a délivré Paul et Silas, mais Dieu n'agit pas forcément de la même façon comme l'apôtre Pierre, où c'était un ange qui était venu, qui l'a délivré de ses chaînes. Ici, dans ce contexte-là, c'est le tremblement de terre était venu pour que le geôlier puisse venir auprès des apôtres et leur dire que faut-il faire pour être sauvé. Que Dieu connaît ceux qui le cherchent. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît les cœurs de ceux qui sont en recherche de la foi, recherche de Christ, recherche du sens de cette vie, de l'éternité. Et je crois sincèrement que dans ce passage-là, si on le comprend de cette perspective qui est la main souveraine de Dieu, dans la mission évangélique, le Seigneur nous fait passer par certaines épreuves qui peuvent être semblables, qui peuvent nous paraître de manière incompréhensible, de manière totalement folle. où il y a une certaine adversité, ou une certaine injustice qu'on peut subir. Mais cela ne doit pas remettre en question notre foi et notre attachement profond à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce que ce texte nous enseigne, que oui, il y a un but, il y a certainement un but à tout ce que nous vivons, et que Dieu sera glorifié, enfin, à la fin. Et dans ce texte, ce qu'on peut savoir en termes de conclusion, c'est que finalement, toutes ces étapes qui nous étaient un peu étrangères, qui nous étaient un peu injustes, Dieu se servit de toutes ces étapes-là, de tous ces événements qui sont succédés, pour qu'enfin le salut puisse venir dans cette maison. Et parfois dans la mission évangélique, dans notre mission évangélique de faire de toutes les nations des disciples, de partager notre foi, on ne sait pas comment les choses évoluent, on ne sait pas qui on rencontre, comment Dieu organise des rencontres. Et je dirais de manière glorieuse et de manière étrange par rapport à nos pensées, le Seigneur, il nous dirige vers vraiment les bonnes personnes vers lesquelles il nous envoie réellement, en fait. Et j'aime insister sur ça, que tout est dans les mains de Dieu, notre cheminement, nos rencontres, les étapes successives de notre vie. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Certainement qu'il n'y a pas de hasard. Et j'aime bien insister sur cela, parce que parfois on se décourage dans des moments difficiles, on a du mal à comprendre pourquoi on passe par des moments compliqués et parfois douloureux, mais certainement que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous. Rappelez-vous de Romains 8, « Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse.